saluons très cordialement les auditeurs de la première ligne de la télédiffusion qui se joignent à nous pour notre rendez-vous avec l'histoire, Portes ouvertes sur les connaissances, par Viviane Mermont-Gasser et Maurice Efti.
Pour la dernière fois cette année, nous retrouvons l'ethnologue Maurice Efti, avec qui nous allons clore cette série d'émissions intitulée « Au seuil de l'Eldorado ». Une série qui s'est présentée comme une grande fresque de l'Amérique latine, tant il est vrai que l'histoire de ce continent que nous connaissons si mal est vaste, compliquée et, il faut bien le dire, douloureuse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce 19e siècle qui va voir l'indépendance de l'Amérique latine, j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous suivent depuis 3 mois que tout à l'heure, nous leur poserons la 4e et dernière question de notre concours. Vous le savez, le gagnant ou la gagnante s'envolera l'année prochaine pour le Mexique en compagnie de Maurice Efti. Le résultat de ce concours sera annoncé sur nos ondes à la reprise de nos émissions l'année prochaine après les fêtes. Le regagnant, de toute façon, sera visé personnellement. D'autre part, je rappelle que nos lignes téléphoniques sont ouvertes et que vos appels seront pris sur l'antenne en cours d'émission. N'hésitez donc pas, si vous avez des questions à poser, à composer le 022 21 75 77. Voilà, j'en ai fini avec ce long préambule et, si j'ose dire, Maurice Efti, il est temps d'aller faire la révolution. En effet, nous allons parler aujourd'hui des libérateurs et des guerres d'indépendance qui vont secouer toute l'Amérique espagnole. Nous sommes à l'aube du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui va susciter ces révolutions? Quelles en furent les causes profondes, les antécédents?
Eh bien, ces causes, je crois qu'il faut tout d'abord les chercher en Espagne. L'Espagne, en cette année 1800, au début de ce 19e siècle, comme vous venez de le dire, eh bien, elle est dirigée par Charles IV. Charles IV...
Il monte sur le trône en quelle année?
Il monte sur le trône juste une année après la prise de la Bastille. Donc en 1700.
Vous voyez un symbole ou bien...
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer par exemple un autre symbole. Nous parlons de ce Charles IV, eh bien on pourrait parler aussi de Goya. Goya a fait un portrait, un très beau portrait de cette famille royale, où on retrouve d'ailleurs la reine Marie-Louise de Parme. On trouve également l'infant d'Espagne, c'est-à-dire Ferdinand VII, le futur Ferdinand VII. Et ce qui m'a toujours troublé, je ne sais pas si vous avez vu ce tableau un jour au musée du Prado, c'est de remarquer que Goya avait déjà senti tout ce côté décadent, il avait déjà senti la fin, on pourrait dire le crépuscule de l'Empire espagnol. C'est un visionnaire, il l'a toujours été, Goya, c'est certain, on le remarque ensuite par ses autres peintures, déjà par ses caprices. Mais en fait, on ne parle pas d'art. Là, nous aimerions simplement remarquer que sur cette peinture, eh bien, il a osé prendre un côté grotesque en faisant ce portrait. Et on sent donc, comme je vous le disais, cette décadence. Eh bien, c'est aussi le dernier monarque qui va pouvoir diriger les colonies, ces colonies espagnoles. Et comme Louis XVI, c'est son cousin Bourbon, eh bien, il représente son cousin qui est déjà mort, justement, peu après le début de la Révolution. Il représente, à mon avis, tous deux la liquidation d'un certain régime politique en Europe. Sous les coups de ce cataclysme révolutionnaire qui va balayer toute l'Europe, eh bien, on remarque que déjà l'Amérique espagnole est, comment dirais-je, est prête à basculer.
Mais alors justement, à cette époque-là, comment situe l'Amérique latine?
Eh bien, il faut la resituer un petit peu, c'est vrai. L'Amérique latine, je penserai d'abord à l'Amérique espagnole, car il y a une nuance, bien sûr, il y a encore l'Amérique portugaise, il y a déjà, à cette époque, une Amérique correspondant aux États-Unis, c'est-à-dire à l'Amérique du Nord. Mais cette Amérique espagnole, eh bien, elle est immense puisqu'elle part de Californie, qu'elle va jusqu'au Cap Horn. Elle représente, imaginons-nous, 20 millions de kilomètres carrés. Pour faire une meilleure comparaison, c'est à peu près 400 fois la superficie de notre petite Suisse. Elle n'est pas très peuplée. Il y a 18 millions d'habitants, à peu près, au début du 19e. Mais ce qui est impressionnant, c'est de penser que l'ensemble, ce vaste territoire, n'est dirigé que par une économie, une seule culture, une seule politique, tout ceci étant au service de l'Espagne, étant commandé par cette métropole. Eh bien, il faut aussi voir la situation, on pourrait dire philosophique, de l'époque. Ces années 1800, eh bien, sont déjà une période de bousculade, c'est sûr, mais aussi de grands changements. Par exemple, on peut prendre l'Église. L'Église, qui a pourtant été, pour l'Espagne en tout cas, pendant plus de 3 siècles, une Église vouée à l'Inquisition.
Une Église dure.
Une Église extrêmement ferme. Elle change, au contraire. Elle va même trouver de nouveaux mots d'ordre. Oui, il y en a non seulement du paternalisme, mais aussi une pratique véritable de la tolérance. Et puis, on remarque aussi d'autres choses. Il y a les communications qui se développent. Les bateaux vont beaucoup plus vite. Les nouvelles vont beaucoup plus vite. Et puis, en Amérique latine, on commence à éditer très fréquemment. On voit une nouvelle gazette, disons, de nouveaux journaux. Donc, la communication devient très forte. Et dans ce nouveau monde, il faut bien comprendre qu'il n'est plus aussi imperméable, aussi étouffant qu'il l'était juste après la conquête. Donc, il est déjà prêt à se transformer. Il y a d'autres choses qui changent. Le commerce, lui aussi, se transforme. Il y a une certaine liberté qui s'installe depuis que les ports de l'Amérique latine ont été ouverts aux navires étrangers. Auparavant, tout était basé sur Séville, sur l'Espagne. Eh bien, il y a aussi, naturellement, ce problème des différences sociales propres à l'Amérique latine, qui, elles, sont toujours aussi marquées à l'aube du 19e.
Et qui le resteront.
Qui le resteront jusqu'à aujourd'hui, nous allons voir comment tout à l'heure. Et la différence qu'on pourrait peut-être soulever, c'est que s'il y a toujours autant de déshérités, de pauvres, eh bien ces pauvres deviennent alors conscients de leur pauvreté. Je crois que c'est là où est la nouveauté.
C'est grâce à l'information, c'est parce que tout s'ouvre.
C'est naturellement grâce à l'information, c'est aussi grâce à ces idées nouvelles qui ont été importées de l'Espagne. Il y a aussi naturellement toute cette clandestinité des idées qui viennent de France et qui auront d'autant plus de force en Amérique latine. Mais je crois que ce qui est intéressant chez ces pauvres, c'est qu'ils ont maintenant conscience que leur pauvreté n'est peut-être pas irrémédiable. En fait, une classe est prête à se former. Je ne dirais pas qu'elle est formée d'indigènes, mais plutôt de métis. Ces métis qui allaient personnifier, si vous voulez, l'élément national, un élément patriotique. Et puis on pourrait peut-être terminer avec deux autres causes qui me paraissent déterminantes, c'est l'ingérence de l'Angleterre dans toutes les affaires de la colonie espagnole. Et puis deuxièmement, les événements qui sont survenus, les événements du 2 mai, du Dos de Mayo, qui sont survenus en Espagne, cette colère du petit peuple madrilène contre l'entrée des troupes napoléoniennes. Eh bien, à cause de cette invasion française, vont surgir tout d'abord à Cadix, ensuite dans les colonies, en particulier au Venezuela, des juntes. Des juntes qui ont été créées simplement pour soutenir Ferdinand VII. Ferdinand VII qui est maintenant l'héritier, puisque Charles IV a abdiqué lors de l'entrée des Français.
Et s'il faut le soutenir, c'est qu'il est menacé quelque part?
Eh bien, obligatoirement, l'Espagne est occupée. Et ces juntes se créent donc, comme je vous l'ai dit, pour appuyer la monarchie. Mais le plus curieux, c'est que ces juntes sont elles aussi appuyées par l'Angleterre, qui, elle, est contre Napoléon, n'oublions pas, à l'époque. Et ainsi, ces juntes du Nouveau Monde vont permettre pour la première fois aux créoles de découvrir le pouvoir. C'est ça, la nouveauté. Ils vont découvrir qu'ils pourraient peut-être être, oui, pourquoi pas, les maîtres chez eux, qu'ils étaient capables, en fait, de gouverner. Eh bien, en défendant la couronne, paradoxalement, les colons allaient découvrir une nouvelle patrie. C'est-à-dire que l'Amérique découvrait simplement qu'elle était américaine, et comme l'avait déjà vécu, d'ailleurs...
C'est la conscience de l'identité, ça.
Oui, la conscience de l'identité, mais on pourrait faire l'exemple, on pourrait reprendre l'exemple des États-Unis, qui, eux, viennent aussi de se libérer. Et cette Espagne est donc aujourd'hui prête à cette libération. Vous avez parlé d'identité. Elle attend en fait uniquement ses héros. Hein.
D'accord, mais pour compléter ce tableau historique, comment peut-on expliquer que l'Espagne, un pays aussi fabuleusement riche au XVIe siècle, soit ainsi devenue en trois siècles le parent pauvre de l'Europe?
Je crois qu'elle n'est pas seulement le parent pauvre, elle est même véritablement bafouée en Occident. Cette Espagne. Reprenons l'histoire. L'Espagne visait avant tout un monopole, ses colonies. Mais très vite, déjà à partir du XVIe, du XVIIe siècle, les Anglais, les Français, les Hollandais vont fournir aux colonies, soit directement en Espagne qui transmettait, soit directement dans les colonies plus tard, oui, ils vont fournir des marchandises, ils vont fournir des produits manufacturés. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, parce que ces produits ne sont pas fabriqués en Espagne.
Mais l'Espagne n'a pas d'industrie.
Elle n'a pas d'industrie. Et bientôt, imaginez-vous, les 5/6 des besoins des colonies vont être fournis uniquement par ces trois pays, qui sont en fait les adversaires de l'Espagne, et qui, eux, vont justement pouvoir se partager le butin, l'or, les richesses du Nouveau Monde. Eh bien, l'Espagne produit peu, vous venez de le dire, c'est vrai, elle ne produit rien, ou presque. Hein. Comme vous le disiez aussi, elle n'a pratiquement pas d'industrie depuis qu'on a exclu d'Espagne les juifs et les morts qui étaient aptes au commerce et justement à l'artisanat qui ont été expulsés, vous vous en rappelez, en 1492. Eh bien, il faut savoir aussi que ça c'est vrai, en tout cas pour ces trois siècles, l'Espagne n'aime pas beaucoup travailler.
Et elle n'a pas d'intelligentsia en
non.
fait.
Non, et elle a d'ailleurs trop de nobles, elle a trop de princes de l'Église, elle a trop de riches cette Espagne. Des riches oisifs, il faut bien le dire. Elle a trop peu d'artisans, donc elle a trop peu d'ingénieurs, c'est vrai. En fait, chaque Espagnol peut rêver d'être un fonctionnaire, d'exploiter à fond les ressources d'outre-mer, qu'il considérait un peu comme un réservoir fabuleux, un réservoir inépuisable. Mais jamais l'Espagne, ça c'est un autre point qui me paraît très intéressant, jamais l'Espagne à l'aube de ses 19e ou peu avant a songé à relâcher sa tutelle. Jamais elle n'a pensé, par exemple, qu'elle pourrait transformer ses colonies en un protectorat. Une idée que reprendront si bien les Anglais plus tard. Alors, obligatoirement, je crois que là, on pourra peut-être encore soulever une dernière erreur qui me paraît tout aussi importante. L'Espagne avait déjà exclu ses Juifs et ses morts, qui étaient déterminants. Eh bien, en 1767, elle va même exclure les Jésuites.
Les Jésuites.
Ces Jésuites qui avaient une influence spirituelle, c'est vrai, mais surtout économique aussi.
Oui, puis qu'il y avait un certain dynamisme, il faut pas le
nier. Et qui étaient peut-être les plus puissants, effectivement, jusqu'à cette date fatidique de 1767. Ils auraient pu peut-être sauver l'Empire, si on refait un peu l'histoire. En fait, ils allaient peut-être aussi éviter, du même coup, une influence nouvelle, une influence camouflée, pénétrante, déterminante. Je veux parler de celle de la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie active qui va s'introduire petit à petit dans les colonies, qui va aider, qui va susciter la désintégration interne des colonies espagnoles.
C'est la prise de conscience.
Par la franc-maçonnerie, oui. En tout cas par les gens qui se sont instruits de la franc-maçonnerie. Et nous allons le voir, c'est le cas des libérateurs, justement, qui tous ont passé un jour ou l'autre par une loge ou qui ont fondé même des loges en Amérique latine. Eh bien, après Washington et la déclaration des droits de l'homme, on va créer en fait de nouveaux slogans. Ils sont déjà connus en France. Égalité, justice. Auparavant, on ne parlait que d'ordre et d'autorité. Eh bien, je crois que pour résumer un peu ce petit tableau, ce panorama historique, on pourrait reprendre un précurseur de cette époque, quelqu'un qui connaissait parfaitement
l'Espagne, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie, un homme qui avait lu et qui avait très bien compris Voltaire, Rousseau aussi, qui avait pratiqué la Révolution, qui s'était introduit auprès des jésuites et des francs-maçons, un créole qui, à mon avis, est peut-être devenu le premier latino-américain, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et oui, nous allons parler maintenant de Francisco Miranda.
En train d'écouter Beethoven, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de particulier, Maurice Eftil?
Ah oui, l'héroïque, c'est tout de même une pièce qui avait été écrite par Beethoven en l'honneur de l'épopée napoléonienne. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en 1805, au moment de sa création, il a tout simplement déchiré sa dédicace. Napoléon était devenu quelqu'un d'autre.
Bien, avant de poursuivre, je rappelle notre numéro de téléphone, le 022 21 75 77. Maurice Eftil est là pour répondre à vos questions éventuelles. Mais quant à moi, bien sûr, j'en ai une à vous poser parmi beaucoup d'autres. Juste avant cette petite pause musicale, vous avez prononcé le nom de Francisco Miranda. Alors, brièvement, qui était cet homme? Quelle était sa personnalité?
Je vais peut-être vous troubler un peu, mais je crois que Francisco Miranda, c'était avant tout un séducteur.
Ça ne me trouble pas du tout.
Non? Vous aimez les séducteurs? Et oui, c'est même un beau parleur, Miranda.
Ça me plaît encore mieux.
Il était doué de tous les dons de l'esprit, il était doué pour les langues, il était doué pour l'art de la guerre, il avait une mémoire absolument prodigieuse. À son époque, il savait tout, il comprenait tout.
C'est en fait, l'homme universel.
C'est peut-être le premier citoyen du monde. C'est assez intéressant par rapport à Miranda. Et nous allons voir justement la façon dont on peut concevoir un citoyen du monde à son époque. En tout cas, pour moi, c'est un individu tout à fait hors série. C'est un écrivain aussi. C'est assez curieux que malgré une vie aussi aventureuse, il ne laissera pas moins d'une soixantaine d'ouvrages, ce qui est tout de même assez fantastique.
Ce qui est énorme. Mais
oui, mais c'est ainsi qu'on peut brièvement résumer Francisco Miranda, qui est né d'un père basque et d'une mère vénézuélienne. Il est né au Venezuela, il est né à Caracas en 1750.
Il faut dire aussi que Francisco Miranda a une vie exceptionnelle, oui, mais que c'est un grand voyageur. Et vous savez, Maurice Eftil, j'ai toujours un faible pour les grands voyageurs. Cela dit, Miranda, justement, va visiter toutes les capitales de l'Europe. Alors, pourquoi cet étonnant périple et où le mènera-t-il et qu'est-il venu chercher en Europe?
Eh bien, Miranda, partant du Venezuela, il viendra chercher beaucoup de choses en Europe. Et pour répondre immédiatement à votre question, je crois qu'il viendra chercher d'abord des appuis. Mais tout d'abord, reprenons un peu son évolution, son voyage, justement. Il arrive en Espagne, cette Espagne qu'il reniera bientôt. Et là, il travaille pour les armées espagnoles. On va le retrouver à Alger, où il fera l'épreuve, disons, son épreuve du feu. On le retrouvera aux Antilles, en Floride. Et là, alors, il commencera à changer. Oui, son cœur, si on veut, va commencer à battre pour le Venezuela. Il va ressentir aussi, ça c'est peut-être plus curieux, des affinités assez profondes pour l'Angleterre.
Mais ce sentiment, c'est ailleurs qu'il l'a appris?
Qu'entendez-vous par ailleurs ?
Conscience. Je veux dire, vous parlez d'Alger, des Antilles.
Il l'a pris parce que l'idée est dans l'air. La révolution va se développer. Alors obligatoirement, Miranda.
Oui, il rentre dans le tournant de l'histoire. Carrément.
Exactement. Il est un précurseur, justement. Nous allons voir comment. Parce qu'il a déjà senti ce qu'on pouvait faire avec l'Amérique latine. Et la preuve, c'est qu'en arrivant en Amérique, eh bien, il va se diriger vers ses États-Unis. Il va manger même à la table de Washington. Et puis, quelques temps après, il a 25 ans. Il va oser demander des canons, des armes aux États-Unis pour armer justement ces terres du Sud, cette colonie espagnole.
En deux mots, je m'excuse, est-ce qu'on sait comment il est arrivé jusqu'à Washington ?
Eh bien, c'était d'abord une visite, si vous voulez. Il a toujours été introduit. C'était quelqu'un d'une telle brillance qu'il avait beaucoup de facilité à s'introduire auprès des grands personnages. Et aux États-Unis, il va même rencontrer, par exemple, Lafayette, qu'il n'aimait pas du tout. Enfin, il va le passer de salon en salon. C'est vraiment l'homme de son
époque. C'est Miranda qui n'aime pas Lafayette ou le contraire ?
C'est Miranda qui n'aime pas Lafayette. Et il évitera même de le retrouver parfois sur son chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette aide, naturellement, sera refusée par les États-Unis, qui trouvent son idée peut-être trop précoce, oui. Miranda est toujours un peu pressé. Il est toujours un peu en avance sur son temps. Alors, on le retrouve ensuite à Londres, la capitale qu'il préfère, où il va commencer véritablement à conspirer contre l'Espagne. Et à ce moment-là, il est surveillé par les Espagnols. En fait, il a alors décidé qu'il voulait voyager. Pourquoi voyager ? Eh bien, simplement pour s'informer et aussi pour informer les autres de ses idées. On va le trouver un peu partout, où il va, donc dans cette Europe, il va chercher ses appuis, comme je vous le disais. Il va commencer une véritable tournée diplomatique. Oui. On va le trouver en Hollande, en Prusse. Il va rencontrer le roi Frédéric, qui, comme lui, est un admirateur des encyclopédistes. À Vienne, à Prague, en Hongrie, où là il va sympathiser, nous parlions de musique, et bien il va sympathiser avec Haydn, il va rencontrer aussi le prince Esterhazy. À Vienne, il va voir Joseph II, il descend ensuite sur l'Italie, sur Venise, sur Rome. Alors là, il se désintéresse un peu du souverain papal, il a même un côté assez moqueur en ce qui concerne le Vatican et l'Église. Mais par contre, alors à Bologne, il ira rencontrer les jésuites expulsés des colonies. Donc il sait très bien pourquoi il va voir les jésuites, parce que mon Dieu, pour conspirer à cette époque, les jésuites...
Il faut le support des jésuites.
Et sur le plan financier, pourquoi pas ? Il frappe vraiment à toutes les portes qui pourraient l'aider.
Mais c'est quand même étonnant de voir cet homme aussi jeune arriver à entrer partout comme ça.
Oui, il avait d'autres formules, c'est-à-dire qu'on pense même qu'il était peut-être un espion de haut vol, si vous voulez. C'est assez typique de cette époque. Il donnait des renseignements sur un pays en passant dans un autre et vice-versa. Il rencontrait des femmes aussi, c'est un grand coureur. Il avait la possibilité de rentrer dans les salons et ensuite de s'introduire petit à petit auprès des plus hauts personnages de chaque pays. Eh bien, il va ensuite descendre vers le sud, il va visiter la Grèce. Pour lui, c'est Athènes, bien sûr, c'est la République aussi. Ensuite, il va passer en Turquie, ce sera Constantinople, la Crimée, Kiev. Et là, au palais impérial, c'est le prince Bezborodko, qui est alors le ministre des Affaires étrangères, qui va le présenter à Catherine, la grande Catherine, impératrice de toutes les Russies. Eh bien, en Russie, il va sympathiser avec Potemkin, qui est l'ancien favori de l'impératrice. Et là, il deviendra véritablement le confident de la grande Catherine. Donc on remarque ses facultés, il y a une différence d'âge énorme, lui a une trentaine d'années, je crois, elle a déjà 58 ans. Lorsqu'on connaît la vie de Catherine et sa suite de favoris, il n'y a aucun passage. Miranda est quelqu'un qui n'a jamais voulu dévoiler sa vie privée, mais on peut soupçonner effectivement qu'il est resté si longtemps en Russie, par affinité peut-être, mais aussi parce qu'il pensait que la Russie pouvait avoir un destin en Amérique. Et il savait que la grande Catherine était une fervente de cette nouvelle philosophie française. N'oublions pas, nous sommes encore un peu avant la Révolution. Elle pouvait se permettre d'être un despote éclairé. Eh bien, d'ailleurs, cette grande Catherine va le faire colonel. Il va servir dans les armées russes. Il l'a déjà fait en Espagne, il le fera encore en France. Il va recevoir de l'argent aussi, des lettres de crédit pour visiter tous les pays nordiques. Il montera en Suède, il va voir Gustave III, et puis ensuite il descend vers la Suisse. Et oui, il va passer à Zurich, il s'arrêtera à Lausanne. Et
qu'est-ce qu'il venait chercher en Suisse ?
Eh bien, je crois que c'est justement en Suisse qu'il a redécouvert ses convictions. Il était grisé par toutes ses cours et tous ses voyages.
On le traite à moins.
Bien sûr, mais en Suisse, il a redécouvert quelqu'un qui l'a quand même poussé, c'est-à-dire Voltaire. Il a retrouvé Rousseau en Suisse sur le plan de la pensée. Et là, en 1792, il a bien choisi sa date, il pénètre en France. Et là, il va aider les armées révolutionnaires, il va vraiment contribuer à la lutte contre les Prussiens et les Autrichiens. D'ailleurs, quelques années plus tard, on va retrouver son nom gravé sur l'Arc de Triomphe. C'est un des seuls étrangers à être ainsi immortalisé sur l'Arc de Triomphe à Paris. Mais lors de l'installation du directoire, il devient gênant en France. Il faisait partie des Girondins, ne l'oublions pas. Et en 1798, il part pour Londres, où il va mettre au point sa constitution. Et oui, il pense déjà à la constitution de sa Colombie. Il avait déjà donné le nom à son pays d'Amérique latine. Il avait même pensé à sa capitale, qui s'appellerait Colomb, et qui serait située dans l'isthme de Panama.
Qui appartenait à la Colombie à cette époque-là, il faut le dire.
Qui correspondait à la Nouvelle-Grenade, qui, elle, effectivement, mangeait encore tout un bout de Panama, qui sera perdu d'ailleurs beaucoup plus tard, lors de la fondation de la République colombienne. Et puis, on a l'impression que depuis Londres, tout lui paraît très simple. Il cherche des appuis, il cherche de l'argent en Angleterre. Miranda sera désormais un véritable précurseur. On peut dire le grand précurseur.
Alors là, si je comprends bien, il retournera aux Antilles et il va avoir un certain nombre de problèmes. Mais c'est après ces problèmes-là qu'il décide du financement d'une expédition. Alors, grâce à l'aide anglaise et américaine, du Nord évidemment, il va enfin tenter un débarquement sur les côtes vénézuéliennes. Alors, j'aimerais que vous expliquiez, Maurice Efty, dans quelles conditions il a pu débarquer en Amérique latine.
Il est parti avec 400 hommes seulement, ce qui est bien peu, ça nous rappelle un peu la conquête.
Il part d'où exactement?
Eh bien, il part des Antilles, des îles même, et à partir de, disons, il va débarquer uniquement dans la zone vénézuélienne qu'il croit connaître, et là, après 35 ans, on peut dire qu'il revient en libérateur. C'était vraiment son rêve. Malheureusement, il n'est pas attendu. Il a toujours un peu d'avance, Miranda. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il n'est pas attendu. Il est même détesté au départ. La population sonne le tocsin à son arrivée.
Mais pourquoi? Ils le craignent?
Parce que tout le problème de la monarchie est encore très fort. On va le voir. Par rapport à toutes ces guerres de la libération, elles ont lieu contre des royalistes. Or, les royalistes avaient tout de même une puissance, une fermeté et qui était assez terrible. Et le peuple vénézuélien n'était pas encore préparé. Le petit peuple n'avait aucune conscience de ces idées nouvelles. En fait, c'est un échec, un triomphe amer, si vous voulez. Et quelques temps après, il doit quitter le continent, plus exactement en août 1806. Il faut donc que l'Amérique attende. Elle va attendre 4 ans. Elle va attendre cette année 1810, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Miranda est à Londres. Il a bien choisi son endroit.
Donc du Venezuela, il revient directement à Londres.
Il revient en Europe, il va à Londres, et là, il faut penser que 1810, c'est justement la création de ces juntes en Amérique latine.
Charles IV a dit.
Exactement, l'entrée des armées napoléoniennes, ces juntes de Cadix et d'Amérique latine, qui, elles, prennent conscience, justement, de cette nationalité, si vous voulez, et elles sont, justement, soutenues par l'Angleterre, c'est-à-dire par Londres. Et le Venezuela envoie, la junte vénézuélienne, envoie des ambassadeurs à Londres, non seulement pour être soutenu, mais aussi pour voir, ou pour même peut-être aller chercher Miranda. Et parmi cette délégation, parmi ces ambassadeurs, eh bien, on retrouvera un jeune officier, c'est-à-dire Simon Bolivar.
Qu'on connaît plus que Miranda, alors que Miranda est beaucoup plus étonnant, comme vous le dites.
Il est étonnant, mais il est oublié. Et nous allons peut-être voir un peu tout à l'heure pourquoi il a été oublié, Miranda. Il dérange un peu, même aujourd'hui. C'est un homme beaucoup trop voyant, beaucoup trop pur aussi, par rapport à ce que fera plus tard Simon Bolivar. Eh bien, ils vont rentrer ensemble au Venezuela et ils vont fonder la première république vénézuélienne.
Ils sont amis, ils se comprennent.
Il faut bien voir la différence. Bolivar est très jeune. Miranda pourrait être son père. Et puis Miranda, d'ailleurs, connaissait déjà le père du jeune. Donc il y avait déjà un contact filial, familial, si vous voulez, entre ces deux hommes. Ils vont donc fonder cette première république, mais les royalistes sont beaucoup trop puissants encore au Venezuela. Et dans la nuit du 30 au 31 juillet 1812, Miranda est arrêté au Venezuela. Il est arrêté par une dizaine de personnes, une dizaine d'hommes, et à leur tête, curieusement, Simon Bolivar. Simon Bolivar, qui, par cette trahison, s'est vu promettre sa liberté, c'est-à-dire un passeport, par les royalistes. Mm-hmm. C'est un échange, c'est vraiment le Judas. Et, en définitive, Miranda va mourir 4 ans plus tard, dans sa prison espagnole. Il va mourir à Cadix, il part enchaîné du Venezuela. Et Simón Bolívar commençait quant à lui son épopée. Il allait devenir le libérateur.
Je rappelle notre numéro de téléphone, le 022 21 75 77. Cela dit, Maurice Efti, reprenons les faits. Bolívar vient donc de trahir lamentablement Miranda et décide d'une lutte à mort contre les royalistes. Après une première occupation de la Nouvelle-Grenade, donc la Colombie actuelle, une occupation et de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela, il se replie à la Jamaïque. C'est là qu'il écrira d'ailleurs sa fameuse lettre de 1815. Alors, que peut-on en déduire? Quelles sont désormais les aspirations de Bolívar et qu'est-ce qui va le porter vers la victoire?
Oh, c'est une bien triste victoire, hein, pour reprendre votre question. Mais nous parlions de Bolívar tout à l'heure. Il faut qu'il soit, à mon avis, il faut que nous éclairions peut-être une chose. Bolívar s'est formé au Venezuela, il a aussi été en Europe, mais il est donc un des chefs de cette junte qui, au départ, devait soutenir la monarchie espagnole et qui va se transformer et devenir révolutionnaire, si vous voulez, avec cette idée que le créole pouvait prendre le pouvoir. Donc, au moment de la trahison de Bolívar, il ne sait pas très bien qui il est encore. Il n'est pas encore vraiment le libérateur. Donc, il a peut-être encore un certain droit à marchander sa liberté. Miranda n'a jamais fait de répartition, disons, de son pouvoir. Il a vraiment déclaré dès le départ qu'il était un révolutionnaire.
En fait, il est beaucoup plus intègre.
Oui, il était déjà un ennemi complet de l'Espagne. Bolívar aussi, mais avec plus de subtilité. Nous allons voir que toute sa vie est faite de ce genre d'ambiguïté. Vous parliez de cette lettre ouverte de la Jamaïque, hein, qu'il a publiée en 1815, qu'il a publiée dans une gazette locale. Eh bien, dans cette lettre, Bolívar va fixer sa pensée. Il adore fixer sa pensée. Il va faire ça tout au long de sa vie. Il en a besoin. Il va surtout dévoiler...
Mais j'allais dire que ça le rassure, oui.
Totalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet homme cherche sans arrêt l'appui des autres. Il ne veut pas seulement l'appui des autres, il veut l'unanimité. Ça, c'est typique de Simón Bolívar. Il préfère abandonner pour qu'on le redemande, c'est-à-dire pour qu'on vienne le chercher.
Il est un peu coquette.
C'est beaucoup dire, disons, pour... on risquerait de vexer certains latino-américains. Mais Simón Bolívar a ce sens qu'avait déjà Pissarro, d'ailleurs. Pissarro qui toujours donnait la parole à ses hommes afin qu'on vienne lui demander quelque chose, lui donner un ordre. Mm-hmm. Eh bien, dans cette lettre, il va aussi dévoiler sa pensée et il va surtout dévoiler un avenir sombre. Et là, alors, c'est quelque chose d'assez fabuleux chez Bolívar, c'est cette vision... Ce côté de visionnaire qu'il a, il va vraiment découper l'Amérique latine future et se rendre compte avec souvent une centaine d'années d'avance de ce qu'elle deviendra. Eh bien, il va tout d'abord critiquer l'Europe dans cette lettre qui, elle, lui paraît trop indifférente au drame qui se joue face à l'Espagne. Il va même insulter les États-Unis qui n'ont rien fait pour leurs frères du Sud. Et enfin, il va, et ça c'est peut-être le passage le plus curieux de sa lettre, il va admettre qu'il fait partie des oppresseurs. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il est de la race des oppresseurs. Il est conscient totalement qu'il est créole. Il est conscient que les créoles sont en fait des intrus en Amérique et qu'ils volent tout simplement les terres aux légitimes propriétaires, c'est-à-dire aux précolombiens, aux Indiens. Eh bien, c'est peut-être là où est la clé du problème, on pourrait dire le paradoxe de toute l'indépendance et de tout ce qui va suivre aussi, bien sûr. Il a donc cette vision nette du futur et des problèmes latino-américains. Il pense que, pour contrecarrer ce complexe, si vous voulez, il faut tout simplement se maintenir au pouvoir par la force. C'est déjà l'image latino-américaine.
Oui, voilà, c'est l'image d'aujourd'hui, ça aussi.
Tout à fait. Dans de nombreux discours, on a même de la peine à ressentir la différence qu'il fait entre monarchie et république, dictature ou démocratie. Eh bien, toutes ces contradictions futures sont déjà là, nous l'avons dit, mais Bolivar est comme l'archétype du président, mais je l'appellerais président-dictateur de toute l'Amérique du Sud. On reconnaît là un être dur. C'est vrai, il était dur, il était autoritaire, il était pessimiste aussi.
Mais est-ce que c'est pas ça, être un chef d'État? Est-ce qu'il ne faut pas être autoritaire?
Oui, lui avait même, on pourrait dire qu'il dédaignait l'humanité, mais il voulait faire son bonheur, si vous voulez, malgré elle. Ça, c'est assez curieux dans la bouche de Bolivar. Mais essayez de vous imaginer les pensées de l'époque, c'est-à-dire qu'il était en contradiction avec toutes les idées européennes.
Oui, lui voit une république comme une dictature.
Il la voit à la façon qu'il pense qu'il devrait imposer pour l'Amérique latine. Et malgré tout cela, eh bien, il est peut-être le seul à penser dans toute cette époque troublée. Il est en tout cas le seul qui porte des idées, il les manie à sa guise, ça c'est vrai. Et comme je vous le disais aussi, il attend toujours qu'on lui tende le pouvoir suprême. Toujours après la lutte, parce qu'il faut penser, on n'a pas le temps de parler de ses épopées, mais c'est un homme qui a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres dans toute l'Amérique du Sud, afin de reprendre une république, de la reperdre, de la reconquérir contre les royalistes, et même contre des tyrans, entre guillemets, qui viennent prendre certains pouvoirs à Bolivar. Eh bien, il prouve en tout cas que rien n'a changé. C'est-à-dire, si on reprend la colonie, qu'on reprend ce début de l'indépendance, on remarque simplement que ces peuples avaient besoin de Bolivar, simplement pour remplacer la toute-puissance espagnole, que des mots qui ont été galvaudés comme indépendance, libération, liberté, égalité, n'étaient justement que des mots dans la bouche de la plupart des libérateurs. C'est une aberration lorsqu'on parle de vocabulaire.
Malheureusement, ça va rester un peu le cas.
Oui,
je
ne
parle pas
ça.
Que de l'Amérique latine.
C'est peut-être pour ça qu'on retrouve d'ailleurs leur statut sur toutes les places des capitales d'Amérique latine. Et vous parliez tout à l'heure de Miranda. Eh bien, les plus purs, les plus sincères, comme Francisco Miranda, sont au contraire presque oubliés aujourd'hui. Et pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il pourrait être dangereux, en tout cas pour nos contemporains, pour les latino-américains d'aujourd'hui. Leurs idées étaient trop idéalistes, trop révolutionnaires, si vous voulez. Eh bien, c'est peut-être, là nous parlons de Bolivar, c'est peut-être l'occasion de poser la dernière question de notre concours.
Alors je vous la laisse poser, puisque c'est vous qui avez décidé de ces questions.
Oui, c'est une question révolutionnaire.
Et nous sommes en pleine révolution.
Absolument. Non, Simon Bolivar a croisé dans sa vie quelqu'un dont les deux enfants se nommaient Tulipe et Maïs.
Voilà qui est bien joli.
Des prénoms qui sont bien révolutionnaires. Des prénoms qui étaient juste bons à ridiculiser les saints du calendrier. Eh bien, j'aimerais seulement savoir quel était le nom du père de Tulipe et de Maïs.
Voilà donc la dernière question de notre concours, et je vous accorde qu'elle n'est pas facile. Il faut dire aussi que l'enjeu est de taille, puisque le vainqueur de ce concours partira l'année prochaine au Mexique avec Maurice Efti. Alors, si vous avez la bonne réponse, le père de Tulipe et de Maïs, et pour autant, bien sûr, que vous ayez déjà répondu aux trois précédentes questions, il faut nous la faire parvenir à l'adresse suivante, le temps d'apprendre, Radio Suisse Romande, 1211, Genève 8. Cette réponse doit nous être envoyée avant samedi prochain, 13 décembre, et je souhaite que ce 13-là vous porte bonheur. Le résultat de ce concours, avec les réponses aux quatre questions, sera annoncé sur nos ondes au début de l'année prochaine, à la reprise de nos émissions après les fêtes. Bien entendu, le gagnant sera personnellement avisé par écrit. bien, Maurice Efti, j'aimerais maintenant que nous tentions de tirer les conséquences de tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce que on en arrive fatalement à se demander ce qu'il reste des rêves et des utopies de Bolivar. Quelles sont les réalisations qui ont survécu au libérateur? Bon, Bolivar est mort en décembre 1830, il y a donc exactement un siècle et demi. Alors, 150 ans plus tard, qu'est devenue sa République?
Sa ou ses républiques, car il en a créé tellement. Sa République, son rêve, eh bien effectivement, c'est peut-être la Grande Colombie. Cette Grande Colombie qui devait comprendre l'actuel Venezuela et toutes les terres appartenant à la Nouvelle-Grenade, auquel il voulait encore ajouter l'Équateur, qui faisait aussi partie de ce même domaine. Mais enfin, je situe l'Équateur parce que c'est une république aujourd'hui. Eh bien, cette Grande Colombie est naturellement tombée déjà en 1830. Elle n'existe plus, elle a déjà été découpée. C'est un songe à la mort de Bolivar. On peut remarquer aussi que tous ces compagnons, les autres libérateurs dont nous n'avons pas le temps de parler, ont pratiquement tous disparu ou vont disparaître. Celui qui a peut-être le plus touché Bolivar, c'est certainement Sucre. Sucre qui est un des seuls d'ailleurs à avoir été lâchement assassiné. Les autres sont presque tous morts dans leur lit. Il y a aussi une petite différence à faire par rapport à la conquête, hein, les conquérants qui sont tous morts dans des conditions terrifiantes.
Sucre qui va laisser une monnaie.
Sucre qui laissera aussi une monnaie, comme ce sera le cas de Bolivar, nous allons peut-être en parler tout à l'heure. Il y a San Martin qui, lui, s'est retiré à Boulogne-sur-Mer, en France, et oui, il va terminer sa vie en compagnie de sa fille. Mais ce qui est curieux, c'est que tout ce côté un peu négatif, Bolivar l'avait déjà prévu. Comme d'habitude, il avait déjà prévu ce qu'était, nous l'avons dit, cette future Amérique latine.
Est-ce dire qu'il avait quand même une assez bonne conscience de l'âme humaine?
Il a été, à partir d'un certain moment, désabusé. Je vous ai dit qu'il était un pessimiste. Pour dire, par exemple, c'était un peu la conclusion de Bolivar, qu'après tout, il n'avait fait que labourer la mer en faisant ses révolutions, ses guerres. On situe aussi un peu le personnage.
On dit qu'il est mort de désespoir.
Peut-être. En tout cas, son retrait, Margarita, a été assez tragique. Il était malade, hein. Il est mort de maladie, bien sûr. Mais ses dernières paroles, il a complètement perdu conscience et il pensait qu'à une chose, c'était retourner. Il était là en compagnie d'un Français, il pensait retourner en France. Il voulait retrouver ce berceau de la révolution, de la République. Mais reprenons peut-être le cours de notre histoire. Il avait déjà prévu aussi, Bolivar, que il y aurait toute une succession de tyrans. Il les avait appelés de petits tyrans, des mesquins. Donc il avait une vision immédiate, mais malgré tout très prolongée, je le répète. En fait, il avait même dit aussi que l'Amérique, en fait, si une partie du monde était capable de retourner au chaos primitif, l'Amérique serait peut-être la seule à être capable de le faire. On retrouve des pensées qui sont aussi valables, même déjà depuis l'époque précolombienne, ce fatalisme dont on a si souvent parlé au cours de ces dernières émissions. Eh bien, Bolivar, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, il suffit de prendre un dictionnaire, peut-être. Un Bolivar, c'est un chapeau. Un chapeau à haute forme, avec un large bord, qui était très à la mode au 19e siècle. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Est-ce que Bolivar le portait lui-même?
Non, il ne portait rarement un chapeau, en tout cas lors de ses batailles. C'était un très bon cavalier. Mais vous avez parlé tout à l'heure de monnaie. Eh bien, effectivement, le Bolivar est l'unité monétaire du Venezuela, sa patrie, son lieu de naissance. Et puis, ce qui reste encore de lui, à mon avis, eh bien, c'est surtout cette république.
Hein. Et beaucoup de statues, Maurice Efti.
Beaucoup de statues équestres qui nous rappellent aussi un peu cette période, hein, le grand romantisme, enfin, ce côté un peu chevaleresque, héroïque, qu'on retrouvera en France, d'ailleurs, dans la peinture. Nous parlions de peinture tout à l'heure. Quand on pense à Gros, à Géricault, à Delacroix, on est tout à fait dans l'ambiance romantique de l'époque. Mais je disais qu'il avait laissé son nom aussi à une république, hein, cette Bolivie. Il avait beaucoup apprécié la Bolivie, peut-être parce qu'elle portait son nom. Et il l'aimait peut-être parce que c'est là qu'il a pu créer, qu'il a pu dicter sa première constitution. C'est important pour un chef d'État de pouvoir créer lui-même sa constitution. Mais cette république, on peut aussi se demander s'il n'y a jamais eu de république, hein, en Amérique latine. La république...
Oui, mais Qu'est-ce que c'est qu'une république ?
Ah, au sens étymologique.
Il y a un moment où on est presque obligé de se poser la question.
En tout cas, lorsqu'on étudie l'Amérique latine, ça vaut la peine de reprendre son dictionnaire quant au mot république, c'est vrai. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, elle porte encore tout ce nom-là. Eh bien, c'est un mot qui est simplement tiré du latin, hein, res publica, la chose publique. Mais ce qui est peut-être plus important dans la définition d'une république, c'est que la forme de gouvernement, ou alors le pouvoir et la puissance, ne sont jamais détenus par un seul homme. C'est déjà une définition bien nette, ce qui empêche justement nos dictateurs. Et une république, c'est aussi un gouvernement dans lequel la charge de président ne doit jamais être héréditaire. Ça, c'est la définition de base, disons, de la République. Ça me rappelle une pensée de Morat qui se demandait ce qu'était le gouvernement de la République et qui répondait que c'était toujours le gouvernement des partis, l'autorisation, en fait, des partis, ou alors il prétendait que sans cela, la République n'était rien.
Alors, est-ce qu'on n'est pas là en face d'un mot complètement usurpé ?
Non seulement usurpé, mais totalement trompeur. On parlait de cette première constitution de Bolivie, et bien nous allons voir un peu en quoi elle consistait pour qu'on puisse remarquer justement l'audace d'appeler ça une république. D'abord, il prévoyait un président élu à vie. On est déjà en pleine contradiction. Donc il se nommait lui-même dictateur, puisqu'il pensait qu'on le ferait naturellement président après avoir dicté sa constitution. Il pensait aussi à un pays où le pouvoir électoral devait être restreint. Ça, c'est bien net, sans suffrage universel, et il estimait que seul le 10% de l'élite, c'est-à-dire le quart de la population, aurait droit au titre de citoyen et aurait droit au droit de vote, justement. Eh bien, effectivement, il n'y avait pas ce problème de citoyenneté pour les pauvres ni les illettrés. C'est donc une république autoritaire, antidémocratique, une république pour laquelle tout le monde s'était battu, car les armées de Bolivar n'étaient faites que de métis et d'indiens, il ne faut pas l'oublier, quelques créoles qui commandaient tout ça. Ainsi, il prépare, sans le vouloir, tout l'avenir de cette nation. Depuis sa création, donc depuis cette constitution de 1825, il ne faut pas oublier que la Bolivie a été secouée par plus de 180, je crois exactement 190 coups d'État.
Ce qui laisse rêveur, quand même.
190 coups d'État depuis Bolivar, vous imaginez, mais...
Plus hallucinant, cette pensée que la capitale s'appelle La Paz, la paix.
La paix, oui, la paix, jour de la paix.
190 coups d'État, c'est lourd. Hein.
C'est lourd, et le jour de la paix a même été fêté le 16 juillet dernier, c'est-à-dire le jour avant le coup d'État. Qui a eu lieu le 17 juillet. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait, en fait, de la Bolivie aujourd'hui, nous, Européens ? Qu'est-ce qu'on sait du latino-américain qui vit aujourd'hui en Bolivie ? Bon, on se rappelle peut-être de quelques détails historiques, on se rappelle de l'histoire de l'affaire Régis Debray.
De Che Guevara,
qui est mort en 1967. On se rappelle peut-être, en ayant lu nos journaux, ce coup d'État auquel je me référais tout à l'heure, ce coup d'État du 17 juillet dernier. Mais on a déjà peut-être oublié les deux renversements précédents qui ont eu lieu en novembre, c'est-à-dire il y a à peine une année. Ça fait beaucoup, trois bouleversements pour une année. Et puis sur cette année, il y a tout de même, à l'actif de la Bolivie, 3 semaines de démocratie. Ben oui, c'est-à-dire le temps qui a été réparti à partir d'une, disons, qui débute au moment des élections présidentielles du 29 juin dernier et qui se termine le 17 juillet par un coup d'État militaire.
C'est court. Hein?
C'est court. Les Boliviens y croyaient, même si c'était si court. La preuve, c'est que la cruauté dont je vous parlais tout à l'heure, quand on a vu, enfin, puisque j'étais sur place en juin et en juillet dernier, quand on a vu la liesse populaire incroyable de ce 16 juillet, c'est-à-dire ce jour de fête nationale, ce jour qu'on appelle Dia de la Paz, jour de la paix, eh bien on comprend à quel point ce 17 juillet est non seulement cruel, mais qu'il est vraiment une forme de trahison aussi face au peuple. Je vous assure que c'est assez pénible.
Mais est-ce qu'il y a eu un profond désespoir qui a suivi cela ?
Je n'ai pas vécu tous les coups d'État boliviens.
Non, mais celui
mais le dernier, justement, j'en parle parce que la population, peut-être pour la première fois, a eu une réaction, mais assez peu soutenue. Une sorte de
Oui, on en a eu 189, on peut en faire encore un. Est-ce que
et les gens vivaient comme d'habitude. On savait que de tous les quartiers indigènes, du marché, par exemple, il faut s'imaginer la passe, hein, dans sa profonde cuvette, les quartiers populaires se trouvant tout en haut, la chaleur, les meilleures températures se trouvant en bas, à 3700, 3800 mètres, eh bien, d'habitude, le peuple déferlait sur les places centrales, sur la grande avenue du 16 juillet, justement. Eh bien, non, cette fois-là, il y a eu relativement peu de réactions, mais je crois que lorsqu'on a entendu crier « Vive le fascisme », qu'on a vu des gens, enfin, dans la rue, des civils avec des bottes, des brassards, et qui vraiment ressemblaient, enfin, en tout cas, de fortes réminiscences nazies, quand on a vu aussi les tanks de ce général Garcia Mesa investir cette capitale. Et puis surtout, alors, ce qui m'avait choqué, ces miliciens qui sortaient d'ambulances officielles, des ambulances de la Croix-Rouge, et qui se mettaient à tirer sur la foule ou sur les jeunes qui étaient en train de monter des barricades. Eh bien, je crois que c'est là que j'ai compris que rien n'avait changé depuis Simon Bolivar. Eh bien, quand on fait un rapide portrait de la
Pourtant,
Bolivie...
Pourtant, excusez-moi, oui. Mais je crois qu'à un moment, l'espoir était permis. Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi, deux siècles plus tard, comme vous le dites, rien n'a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans l'histoire de l'Amérique latine? Est-ce que là aussi, nous devons, nous, faire preuve de fatalisme?
Non, le fatalisme, nous tâcherons peut-être de développer ce sujet parce que c'est une chose importante. Mais il ne faut pas oublier tout de même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les créoles n'ont fait que reprendre l'ancien pouvoir. Et tant que cette classe-là, cette élite-là, comme l'avait prévu d'ailleurs Bolivar, reste au pouvoir et est encore en main, prenons le cas par exemple de l'étain, enfin il y a des problèmes gigantesques en Bolivie. C'est un des pays les plus riches d'Amérique latine, c'est le cinquième en superficie de l'Amérique latine. Eh bien ce pays-là est peut-être le seul où on vit d'une manière aussi infrahumaine. Lorsqu'on voit le travail des mineurs, enfin on pourrait prendre beaucoup d'exemples, il y a des gens qui savent aujourd'hui en parler, ils sont conscients de nouveau de leurs problèmes, eh bien c'est vrai qu'on pense encore à ce fatalisme, mais qu'il existe une lueur d'espoir, mais totalement annihilée, totalement cachée par ces formules économiques, sociales et politiques qui maintiennent tous ces gens en bas de l'échelle. Mais ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est aussi de remarquer qu'il y a presque autant d'illettrés, ça c'est important. Il y a autant d'illettrés qu'à l'époque de Bolivar, donc ils n'ont pas droit vraiment à quelque chose de mieux. Il y a ces mêmes paysans, ces mêmes mineurs qui sont toujours sans pouvoir, sans armes et sans aucun droit.
Eh bien, qui sont toujours exploités.
Oui, c'est vrai, de la même manière. C'est ainsi qu'il est facile de remarquer que vous avez parlé de changements qui étaient intervenus au cours de ces deux derniers siècles. Pour moi, bien sûr, ils sont trompeurs. Mais c'est vrai qu'on a assisté dans toute l'Amérique latine à une industrialisation très forte. On a eu une forte urbanisation aussi, une croissance démographique incroyable, une croissance économique, il faut vraiment le dire.
Oui, mais avec une mainmise économique de l'Occident.
Mais oui, tout venait de l'extérieur. C'est-à-dire que par ces guerres civiles américaines, moi je ne les appelle pas les guerres d'indépendance, mais plutôt des guerres civiles, ont simplement mis en place un nouveau pacte colonial, si vous voulez, sans pour autant faire disparaître les vieux cadres de domination interne, mais aussi externe. C'est ce que vous signalez, c'est-à-dire qu'on le remarque après l'Angleterre, après la France, on passe aux États-Unis. Eh bien, comment échapper à ce fatalisme? Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si le futur ne va pas justement ressembler
voilà,
au passé?
Est-ce qu'on va continuer toujours sur ce cheminement-là?
Mais je crois que c'est une pensée qui a justement été exprimée par certains penseurs latino-américains qui pensent que chaque cycle historique se termine toujours en manière de cataclysme. Nous en avons parlé la dernière fois. Eh bien, ça c'est une pensée peut-être précolombienne et que tout a été ensuite suivi d'une nouvelle tentative de construction. Eh bien, si la domination n'est pas toujours venue de l'extérieur, mais presque, hein, on le remarque bien, en tout cas l'influence économique, il est surtout malheureux qu'elle ait toujours trouvé, enfin, elle a toujours trouvé sur place ses servants pour que la tragédie continue. Mais si autant des conquérants, pour les précolombiens, la conception cyclique du temps, la destruction, la renaissance, était l'affaire des divinités, ça c'est vrai, nous l'avons vu surtout au cours de cette dernière émission sur les chroniqueurs, eh bien, aujourd'hui, je crois que ces cycles ne dépendent plus tout à fait des dieux. C'est-à-dire que les hommes sont conscients que tout cette roue implacable, ces mécanismes, ces forces peuvent être actionnées simplement par les hommes. Et je crois que c'est là où est la différence. Ce fatalisme, ce pessimisme a trop souvent permis la venue des caudillos, des dictateurs. a permis surtout ce renoncement à la personnalité, car dites-moi si un Indien a une personnalité dans les pays d'Amérique latine, cette soumission, elle tente pourtant à disparaître, et je crois que le réveil d'une nouvelle identité semble s'annoncer, une nouvelle conscience surtout. Prenons le cas de notre Espagne, de Charles Quint, pour faire une conclusion. Eh bien, elle n'avait pas retenu les avertissements des créoles et des métis de l'Amérique. Et moi, je me demande aujourd'hui si les gouvernements, ces gouvernements latino-américains, sauront entendre les messages, les appels, ils existent, de tous ces hommes du XXe siècle.
Eh bien, Maurice Sefti, c'est sur cette interrogation que nous arrivons au terme non seulement de cette émission, mais de cette série qui nous a permis de prendre conscience de l'histoire d'un continent, de son passé tumultueux, difficile, qui explique peut-être et même sûrement en partie, pour le moins, les terribles problèmes qu'il rencontre aujourd'hui. Je pense que ces quatre émissions auront clarifié un certain nombre de points et je vous remercie de nous avoir ainsi fait traverser quatre siècles d'une histoire à laquelle nous ne sommes pas étrangers, nous, les Européens. Nous vous retrouverons vraisemblablement l'année prochaine pour une autre série d'émissions. En attendant, je vous souhaite de bien terminer celle-ci. Lundi prochain, 8 décembre, Jean-Claude Gigon sera fidèle au micro pour animer les portes ouvertes sur l'école. Le débat de lundi prolongera celui de cette semaine en poursuivant la réflexion sur « Qu'est-ce qu'un bon maître ?»